J'arrive à mettre Wrecked, People of Earth, Samantha Bee.
J'en ai pas tout entendu parler, je suis complètement...
Mais du coup, t'as vu ce que c'était, enfin, t'as compris ce que c'était quand je l'ai, c'était les, c'est une autre des autres séries de TBS.
Ouais.
Mais du coup.
C'est une sorte de Lost.
En fait, c'est Lost en comédie.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en gros, j'allais mettre ça comme un blooper, mais en fait, je pense que ça va être l'intro de l'épisode. En gros. Du coup, je vais faire l'intro. Non, mais du coup, je me dis, parce que 2 minutes de conversation avant l'intro, ça va pas le faire. Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la culture pop en général et surtout en particulier. Nous sommes toujours à Sériemania. Hier, j'ai pas fait de podcast, voilà, c'est ça. On n'a pas la sortie du bunker, bien que justement une partie de mon Sériemania jour 5 était dehors, où j'ai suivi dans la rue Guillaume et Elodie qui allaient faire une course juste pour sortir du bunker. Donc, je suis aujourd'hui avec Sam. Coucou Sam.
Hello, Sam, de Twitter Stetson Sam.
Voilà, de Twitter Stetson Sam. Tu fais quoi d'autre dans la vie au lieu des, autour des séries, je veux dire.
Mais je ne vis que pour les séries. Je suis. Comment peut-on présumer qu'on regarde, on fait autre chose que, les, que regarder les séries?
Non, mais t'écris sur les séries, tu parles
j'écris
sur les séries.
Aussi sur
tu...
les séries. Alors,
où est-ce qu'on trouve ce que tu fais?
Occasionnellement, j'écris pour sur nos écrans.
Ouais.
Je publie des critiques de saison, de pilote. Sur les dernières séries américaines. Et puis là, actuellement, sur certaines de Séries Mania. Et puis les rencontres. Donc je suis là pour ça.
Ouais. Donc je crois qu'on s'est croisés il y a 2 Séries Mania.
Il me semble aussi, ouais.
Ouais, c'est ça. C'était il y a 2 ans. Je me rappelle très bien parce que j'ai fait tout un speech sur Buffy.
Buffy, oui.
En pensant plus que c'était cause perdue, sans réaliser que Arnaud était de mon côté, parce que vous étiez 3, je me rappelle, mais je sais plus qui était le 3e d'ailleurs. Bah, bon, tout ça pour dire qu'on s'est croisés donc il y a 2 ans et puis maintenant on se parle plus souvent.
Qu'à ce
et puis
j'ai pas encore vu Buffy d'ailleurs.
On se suit sur Twitter depuis un an et quelques, je pense, peut-être depuis le dernier Sériemania et maintenant voilà. Donc,
bah, je crois depuis ce moment-là en fait. Oui, bah, oui.
Ah oui, peut-être depuis ce moment-là, donc peut-être il y a 2 semaines. Enfin, toujours est-il que je te trouve tout à fait sympathique et je me suis dit qu'on allait te faire parler de séries. Voilà, et du coup, alors hier j'ai pas fait de podcast parce que hier j'ai eu ma journée Gronchon.
Ah oui.
Et j'ai eu ma journée, j'étais pas contente. Tout ce que j'ai trouvé, j'aimais pas. J'étais pas. Voilà, et donc j'avais pas envie de faire un podcast purement négatif, puis j'avais pas l'espace mental. Après, tu m'as fait chanter Crazy Ex-Girlfriend devant le Forum des Images très tard et je crois que ça m'a aidé à débloquer un peu mon cerveau. Du coup, je suis un peu moins ronchon. Je vais quand même parler des coups de gueule que j'ai eu hier. Mais je voudrais commencer par des trucs positifs. Du coup, est-ce que toi, tu peux nous parler de, disons, ton coup de cœur numéro 1? Alors, juste, tu n'as jamais écouté mon podcast, donc je te le dis, c'est un podcast conversationnel, ce n'est pas un podcast chronique, donc je vais sûrement t'interrompre, te poser des questions. C'est une conversation.
C'est comme ça que ça se passe dans la vie.
Voilà, et du coup, c'est comme ça que ça se passe ici. L'ancien titre de ce podcast, c'était Il faut qu'on parle, parce qu'il voilà, faut parler. Et
comme
donc,
dans
là,
le clip de Diams, c'est l'inspiration initiale.
Je ne sais pas, je ne connais pas le clip de Diams, parce que j'y connais pas grand-chose à Diams, je connais que quand elle a fait. C'est elle qui a fait la reprise de Michel Berger.
Oula,
il faut déjà en chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Bon, en tout cas, peut-être pas du tout. Hein, je sais pas si c'est là que tu connais, je connais pas du tout la pop française. Toujours est-il que oui, faisons comme Diams, si tout tu le dis.
J'ai besoin de te parler de plein de séries.
Raconte ton coup de cœur numéro 1.
Positif, mon gros coup de cœur numéro 1.
Pour l'instant, hein, parce que t'as pas encore trouvé.
Pour l'instant, j'ai rien vu qui m'ait aussi autant emballé que Big Little Lies.
Ah,
mais,
tu fais partie de ces gens qui regardent les séries américaines et les séries Mania.
C'est ce peuple étrange qui a besoin aussi de voir les séries de qualité sur grand écran quand même. C'est une opportunité parce qu'aussi aujourd'hui on est dans une époque où on n'arrive pas à voir tout le temps tout ce qu'on veut au moment où on le voudrait. Et j'avais prévu de voir Big Little Lies avant d'arriver, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, je me suis dit ça sera sur grand écran. Et puis c'est le moment ou jamais, comme ça sera fait. Il y aura 2 épisodes d'un coup et je suis forcé de le voir.
Alors, moi aussi je m'étais dit ça en fait, parce que non plus j'ai pas eu le temps de le voir. Du coup, maintenant il faut que t'en parles sans me spoiler parce que je l'ai pas vu.
Ça marche.
Mais en même temps,
je vais rester très vague.
Vague mais substantielle. Enfin, tu vois, on s'en fout de ce qui se passe. Par contre, de nous teaser de quoi ça parle sur le fond, tu vois, quelle est la promesse, pourquoi ça peut nous intéresser.
Mais rien que l'enrobage est déjà très 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 alléchant. Le fait de savoir que
plein d'acteurs.
C'est un casting de malade, bien sûr.
Il y a Shailene Woodley, il y a Reese Witherspoon, c'est produit par Reese Witherspoon, il y a Nicole Kidman.
Voilà.
Mais il n'y a pas Alexander Skarsgård en plus.
Alexander Skarsgård.
J'ai passé la moitié du déjeuner.
Excellent.
J'ai passé la moitié du déjeuner à décrire les scènes de cul de True Blood à quelqu'un que j'avais jamais vu, donc Je suis très très.
Eh bien, tu ne seras pas déçu dans Big Little Lies.
Oh
Lies,
God. Ok.
Même si dans un autre genre. Mais en tout cas, le rôle est bien plus intéressant que celui de True Blood. Ça, c'est
clair. Ah non, Eric, il est passionnant. C'est pas parce qu'il est beau qu'il est pas passionnant.
Il est intéressant. Bah, c'est le vampire le plus intéressant, on est d'accord. Voilà. Mais dans.
Après, ils le finissent n'importe comment à la fin. Oui, là, c'est bon, voilà. Passant, c'est un autre problème. Et donc, il y a qui d'autre? Il y a encore d'autres gens, encore dans Big Little Lies.
Il y a aussi Adam Scott.
Et c'est ça. Non, mais c'est ouf ce casting.
James Nordin, Topper, je me trompe.
Ouais, c'est James Topper, le mec de. Ou l'ex, je sais pas s'ils sont toujours ensemble, de.
Ah, alors, de l'ex de Hélène.
Hélène de... Mais ça fait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Hélène DeGeneres a été pendant un certain nombre d'années avec Anna Ek.
Ah.
Et Anna Ek était pendant un certain temps avec James Topper. Je sais pas s'ils sont toujours ensemble.
Ah d'accord.
Ils se sont mis ensemble quand ils ont fait la série en Alaska.
Man in Trees.
Oui. Ils étaient tous les deux mariés.
D'accord.
Et à la prise, ils n'étaient plus mariés. Ils étaient ensemble. Mais Anna Ek, pendant la fin des années 90, début des années 2000, elle était avec Hélène DeGeneres et c'était le couple homo le plus célèbre, enfin le couple lesbien le plus célèbre des États-Unis. Ça les a probablement un peu détruits d'ailleurs.
Ouais. J'espère que ça va mieux avec ses Porsche de Rossi maintenant.
Ah oui, mais avec Porsche, elle est avec Porsche depuis tellement longtemps maintenant.
Oui, j'ai l'impression.
Mais c'est juste que c'était entre 1997 et 2001, c'était le couple.
Iconique.
Voilà, parce qu'elle a fait son coming out et juste après il y a ça. Et alors, en plus, après, quand Anna Ek s'est retrouvée à se remettre avec un mec, alors ça a fait scandale. Oui, machin, c'était juste pour la pub et tout, mais bien sûr.
Et donc, on parlait de ça parce que. Ah oui, c'était. Oui,
Big Little Lies, c'était le sujet. Ouais, c'est conversationnel.
Parce... Oui, donc James Topper qui est aussi dans la série. Et...
Mais d'accord, c'est le mec de Man in Trees. Hein, du coup,
Moi, j'ai pas vu Man in Trees, mais il me semble qu'il est.
C'est un gros, grand. Un peu homme des bois.
Ouais. La cinquantaine. Je crois qu'il était dans Revenge, si je dis pas de bêtises.
Oui, il faisait le papa dans Revenge.
Ouais, voilà. C'est... voilà. Et qui a d'autres encore. Laura Dern.
C'est très fan de Man in Trees.
Oui, on m'a dit beaucoup de bien de Man in Trees.
Il y a Laura Dern aussi dans Big Little Lies.
Oui. Elle a un super rôle aussi.
Donc c'est des super rôles. Donc en plus, c'est intéressant.
Ouais.
Donc faut regarder.
Carrément.
Du coup.
À la base, quand le projet a été annoncé, quand il y a eu les annonces de casting, j'avais quand même une appréhension de me dire que ça allait être quelque chose d'assez tape à l'œil, qu'il n'y allait pas avoir énormément de fonds, que ça allait être plus de romans de plage, mais en série, surtout voilà, c'est adapté d'un roman. Donc...
En plus, il y a un mystère, c'est ça?
Mais voilà, il y a ce mystère-là.
Je ne sais rien dessus, hein, je sais.
J'en dirai pas plus, mais c'est pour ça que. Ah, c'est le mystère qui est au centre du roman qui fait que c'est une sorte de thriller aussi, outre tout l'aspect bah, c'est riche bourgeoise maman sur la côte californienne, je crois. Monterey, je sais plus exactement.
Non, Monterey.
Ouais,
c'est si, ça. Si, t'as raison, c'est la côte californienne. Je crois.
Donc,
okay. On vérifiera.
Fact-checking si vous voulez. Mais voilà, au début, a priori, je me disais que ça allait être. Pas non plus si profond, si fort que ça. Mais au final, après visionnage, personnellement, j'ai été vraiment happé par l'histoire, par le sens de l'ironie aussi de l'écriture. Je ne sais pas si ça vient de Liam Moriarty, l'auteur du bouquin, ou de David E. Kelley, qui a été en charge de l'adaptation. Mais j'ai retrouvé vraiment un...
Enfin, un peu les deux, je suppose.
Ouais, une combinaison.
Disparu.
Mais typiquement, le personnage de Reese Witherspoon dans Big Little Lies, en fait, je me le verrais complètement dans une série de David E. Kelley, un truc légal, judiciaire, qui préfère. Elle aurait tout à fait sa place dans Ally McBeal. Sauf que là, on est dans un contexte complètement différent, un cadre, une histoire qui n'a rien à voir avec du procédural juridique. Donc c'est aussi intéressant à voir comment un personnage de David E. Kelley évolue dans ce contexte-là.
Je suis en train de dire que tu vois, il y a un lien avec Portia de Rossi finalement.
Ah oui, parce qu'elle apparaît dans.
Bah, elle apparaît, c'est un des personnages principaux à partir de la saison 2. Donc,
bah, oui.
Non, mais j'ai juste. J'ai pas réalisé que la boucle est bouclée. C'est un petit monde. Mais.
C'était écrit là.
Du coup, moi, Reese, mais en même temps, j'ai entièrement confiance en Reese. Je trouve que c'est une nana qui a l'air super smart et. Je suis vraiment intéressée par ses boulots de prod.
Legally Blonde, c'était elle.
Oui.
Ben voilà, moi c'est surtout ça jusque-là. J'ai pas vu.
T'as pas vu Wild?
Il faudrait, mais j'ai pas. Et puis c'est de là qu'est née sa collab, enfin sa grosse amitié ou collaboration avec Jean-Marc Vallée, c'est ça?
Donc
là-dessus, voilà, c'est Big Little Lies, c'est pareil apparemment.
Ah, il a réalisé.
C'est lui le réalisateur de tous les épisodes.
Ah, sérieusement? Ok, donc ça y est, maintenant vraiment je vois. Ouais, parce que c'est génial ce qu'il fait. Il réalise super bien.
Je connaissais pas,
bien,
mais franchement,
j'adore.
C'est. Oui.
Mais en plus, c'est encore plus rigolo, c'est un des Québécois quoi. Il y a tous les Québécois. T'as genre le Québec, c'est pas grand quoi. C'est
le final,
réalisateur québécois, tu vois. Ah bah on a juste Xavier Dolan. Jean-Marc Vallée et comment il s'appelle l'autre, celui qui a fait Sicario et Arrival.
Ah.
Donc lui dont je parle tout le temps en plus depuis 6 mois, donc Arrival que j'ai adoré, enfin lui c'est un tueur aussi, le mec a fait Incendie. Il a fait Ennemi, il a fait Sicario, il a fait Arrival et c'est un Québécois aussi. Et de là, putain, mais comment est-ce que dans les. En gros, dans le top 10 des réalisateurs mondiaux, il y a 3 Québécois, ça fait beaucoup quand même. Et il y a tout un truc par rapport à la. Enfin, c'est un truc.
C'est un mouvement de cinéma en ce moment.
Non, c'est culture, c'est toujours la société hein, qui fait. C'est la société qui produit ça. C'est le mélange, je pense, de l'intellectualisme français. Avec l'entrepreneuriat créatif aussi, c'est-à-dire on collabore, on se parle, on se réfléchit. Le réalisateur, le mec qui a écrit, qui a fait l'adaptation de Rival, qui est une adaptation qui lui a pris des années à faire puis à vendre, qui était un scénar qui était sur la blacklist. Mm-hmm. Donc tu sais le truc, tu vois ce que c'est la blacklist? Tous les ans il y a une liste, mais en fait tu peux la télécharger, tu peux télécharger tous les trucs, ça s'appelle la blacklist. C'est je sais plus quel agent qui faisait ça au départ, et en gros ils compilent les meilleurs scénarios, enfin les scénarios préférés du business qui n'ont pas d'option, qui sont dans la nature, qui sont pas encore produits.
D'accord.
Peut-être qu'il y a des standards des options, mais en tout cas qui sont pas encore produits. Et du coup, t'as une trentaine de scénars, et en fait, il y a plein de films. Des fois, tu dis, ben ça, c'était sur la blacklist 2012, ça, c'était sur la blacklist.
Je ne connaissais pas.
Et du coup, bah, si tu cherchais maintenant, de nos jours, avec la technologie moderne, tu peux la télécharger et tu peux récupérer tous les scripts.
Hein.
Ok. Et parce que c'est là que tu vois que c'est comme ça qu'une industrie fonctionne, pas comme chez nous. Cacher tout et on se parle pas, ça fait pas des trucs créatifs.
Chacun fait dans son coin.
Mais c'est ça, parce que mon idée, elle va rester en sécurité dans mon cerveau, comme ça elle va pouvoir vivre. Non, comme ça elle va mourir. Bon, et toujours est-il que. Et un des trucs qui était rigolo, c'est que lui, quand c'est l'autre, donc j'oublie son nom, putain, c'est horrible. J'ai envie de chercher sur mon téléphone, mais tu peux chercher sur ton téléphone, Arrival, réalisateur. Quand il a. Le scénariste, quand il a été choisi, plus ou moins, ils sont allés boire un verre, ou boire un café, ils ont parlé.
Denis
Villeneuve, voilà ça. Ils ont parlé, et à la fin de la conversation, Denis Villeneuve a dit bah, c'était super intéressant, on va encore avoir beaucoup de conversations comme ça. Donc il a appelé ses agents, ils ont dit alors, il a signé et tout, il fait non, il a dit que c'était la première conversation d'avoir beaucoup comme ça. Et les agents ont fait quoi? C'est quoi ce bordel? Et finalement, donc ils ont eu genre 7 rendez-vous.
Avant?
Ouais, et une fois qu'il a signé, il s'est dit bon bah maintenant je vais plus jamais en entendre parler. Tu vois, le scénariste s'est dit maintenant qu'il a signé, il va plus jamais me parler, il va faire il va prendre le script, faire le film et voilà. Et alors qu'en fait, dès qu'il a signé, il l'a appelé en disant maintenant on est mariés.
Oh, ok. Ouais,
et donc, apparemment, non. Et d'ailleurs, ce film est génial. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est.
Non, mais il faudrait.
C'est tellement bien. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. C'était en plus dans ma famille, à la maison. Ma meilleure amie, pour elle, c'était son film préféré de l'année. Mon petit frère, il en parle tout le temps. Et moi, j'ai adoré aussi. Donc, on est tous les trois très.
Mais quand il y avait les Oscars, avant, j'essayais de voir un maximum de films qui étaient nommés. Je me l'étais sur
cette année, liste, j'ai complètement largué le truc. Mais
j'ai pas réussi.
Mais celui-là, c'est vraiment un film beau. C'est un film intelligent, mais c'est vraiment intelligent, et en même temps c'est un film léger qui arrive à être léger et juste agréable à voir.
Et c'est de la SF,
Mais intelligent. C'est tellement. En fait, c'est plus ou moins un film qui dit que la linguistique peut sauver l'humanité. Donc évidemment, moi, ça m'a beaucoup parlé. Puis c'est des
communiquer, bordel.
Scientifiques. Non, mais c'est ça. C'est des scientifiques intelligents.
D'accord. Mais est-ce qu'il y en a des pas intelligents?
Oui, Prometheus. Au cinéma, d'accord. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont cons.
J'ai bien aimé la scène qu'ils nous ont. Bon, ils savent, c'est très scène con, mais.
Non, mais dans Prometheus, il y a littéralement un scientifique qui est là. Ah, c'est quoi cette bestiole? Je vais toucher. T'es là. T'es sur une autre planète.
T'es scientifique, oui.
Abruti.
On est d'accord.
Et l'autre, ils ont mis 8 ans à essayer d'arriver sur je ne sais quelle planète. Et le premier jour, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Et l'autre, il commence à se bourrer la gueule. Genre, ouais, de toute façon, c'est nul. Et t'es là. T'es scientifique. Et c'est la première fois de ta vie que tu reçois, que tu vois qu'il y a un truc que t'as pas. Enfin bon. Donc oui, tout ça pour dire que ça me fait penser au truc, un des trucs que je veux. Donc tout ça pour dire que les Québécois, ils tuent. Et il me semble que Jean-Marc Vallée aussi est Québécois, on est d'accord. Hein, parce que
mais je savais même pas que Jean-Marc Vallée était Québécois.
Il me semble, ça se trouve, c'est une grosse connerie. Tu veux pas vérifier ton téléphone si Jean-Marc Vallée.
Attends, on a dit le fact-checking, c'est pour après.
C'est la running gag, tu veux pas regarder sur ton téléphone. Je regarderai bien, celui-là, parce que, ou alors tu peux tenir le téléphone et je vais regarder sur mon iPad. Non, t'as un autre truc que t'aimes bien?
Alors, autre truc que j'aime bien aussi.
Moi, je peux continuer à parler pendant des heures, mais l'idée c'était pas.
qu'est-ce que j'ai bien aimé encore? American Gods.
Voilà, putain, c'est j'ai tellement pas envie de le voir, mais je m'en fous. Tu vois,
mais t'as lu le bouquin?
Non, mais c'est juste ça. Moi, je suis à un moment, je suis là. Ah, super, j'ai vu, c'est un mec blanc d'un certain âge qui a l'air torturé. Enfin, qui a l'air torturé. Non, mais je vois, j'ai vu l'affiche et j'étais de la photo et j'étais là, je m'en fous.
C'est un afro-américain qui sort de prison.
Ah, c'est vrai.
Qui est même pas justement, moi ce que je redoutais, c'est déjà. Dans le bouquin, c'est un de ses traits de caractère, mais dans.
C'est un bouquin de quoi? C'est quoi comme bouquin?
C'est Neil Gaiman.
Ah, attends, merde, non, on parle pas de la même chose. Non, mais non, c'est juste que.
Autre chose.
Non, mais j'ai vu une photo passer, j'ai vu 20 trucs, je sais pas quoi, et je me suis dit, ça va me saouler, ça, je sais même pas de quoi ça parle. De toute façon, moi, je lis même pas les pitchs. Moi, je lis pas les pitchs, moi, je regarde.
Tu vas à l'instinct.
Non, mais je regarde, et voilà. Et c'est vrai que des fois, il y a des pre-packaging de l'extérieur, Amazon, machin et tout, et je me dis, mais en fait, c'est pour ça que c'est sur ma liste. Maintenant, je suis en train de réaliser. J'étais là, mais pourquoi c'est sur ma liste ce truc? Voilà, maintenant je viens de comprendre.
Non, okay. C'est adapté d'un bouquin de Neil Gaiman.
J'ai jamais lu Neil Gaiman, mais
c'est du Gaiman très.
On me dit que je devrais adorer.
Je crois que j'en ai lu deux ou trois. C'est un des bouquins que j'ai lu de lui qui est plus space. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Mais justement. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour être adapté quelque part, parce que t'as envie de voir ça à l'image, tellement là, ce qu'il décrit est surréaliste et tellement détaillé dans le nonsense, dans le fantasmagorique. Et ça, effectivement, au niveau de l'adaptation série, ça en jette. Brian Fuller a fait un travail. Voilà,
ah putain, c'est Brian Fuller!
C'est Brian Fuller!
Oh mais c'est dark?
C'est dark, dans quel sens? Qu'est-ce que tu entends par dark?
Bah, c'est glauque, c'est des gens torturés qui sont torturés, et regardez comme c'est dur d'être quelqu'un de torturé.
Non, il y a quand même beaucoup d'humour.
D'accord, il y a des personnages féminins?
Oui. Enfin, dans le bouquin, je sais qu'il y en a plein d'intéressants. Dans le premier épisode qui a été passé, il n'y en a pas d'intéressant qui apparaît, en tout cas.
C'est qui l'acteur principal?
L'acteur principal, c'est Ricky Whittle, de The Undead.
Ah, j'ai pas regardé.
Mais c'est un.
Des premiers arrivant, épisodes ou après?
Je sais pas, mais j'ai pas regardé The Undead non plus, mais je sais qu'il est de là.
D'accord.
Mais lui,
donc c'est un jeune, et c'est quoi son background du coup? C'est quoi le pitch?
Le
du
pitch, coup, il sort de prison c'est Shadow Moon, c'est le personnage de Ricky Whittle, qui sort d'une prison où il a été enfermé après un vol à main armée, on sait pas trop pourquoi. Et il sort de façon prématurée parce que sa femme est morte. Je pense pas que c'est un spoiler, c'est vraiment le pitch initial de la série et du bouquin. Et il doit retourner dans la ville où elle est morte, et sur le chemin du retour, il tombe sur Mr. Wednesday, qui est en fait un des American Gods. Et en fait, le concept, c'est que
Ok, tu m'as vendu, je vois. Stop.
Je ne peux rien savoir. Mais je t'ai même pas vraiment vendu le cœur du projet.
Bonne nouvelle, Jean-Marc Vallée est québécois, je n'ai pas joué.
Bon. On est rassurés.
On est rassurés. Ok, donc American Gods. Merde.
Mais oui, c'est vachement.
Non, mais ça, mais bon.
Et le générique, il est sublime.
Ok, me dis rien. On en reparlera plus tard, je vais regarder American Gods. Ok, donc American Gods, autre chose que t'as vu?
Qu'est-ce que j'ai vu?
Un peu de l'étranger, là. Un peu du truc dans une langue que tu parles pas.
Ah non, que je. Ouais, j'ai bien aimé Ride Upon the Storm. C'est
ça y est,
série,
je peux enfin bitcher sur un truc. Vas-y.
Ça va fighter.
Non, ça va pas fighter. Moi, je fight pas parce que je suis contente que les gens, ça leur plaise. J'ai mes soucis perso avec. Ça veut. Tu vois. Transfert ou les séries françaises.
Là, on s'étrangle.
Ça t'a pas plu?
Non, mais j'ai pas regardé.
Bon, voilà. Non, mais... faut pas déconner non plus. Non, mais il y a des gens qui s'appuient, hein, je tiens à le dire. Alors, premier coup de gueule. Donc, oui,
moi, c'est pas non plus un coup de cœur absolu parce que j'ai eu du mal à suivre quand même. C'est pas un rythme absolument hyper prenant. Mais j'aime les thématiques. C'est un. Des intrigues qui changent par rapport à ce qu'on voit habituellement. Voilà, les thématiques de la foi, de la religion, de...
Alors, je vais te dire le fond de ma pensée.
Vas-y,
je pense que je t'ai pas déjà dit hier soir.
Plus ou moins. Oui.
Mais bon, pour nos auditeurs, alors, Ride Upon the Storm, qui est créé par Adam Price, qui a créé Borgen, pour préciser, donc on est dans un truc danois, qui va commencer maintenant. C'est sur une famille de, qui sont liées, enfin, où la plupart des membres de la famille masculins sont pasteurs.
En fait, c'est 7 à la maison, mais en dramatique.
Mais non. donc, il y a le père et un prêtre, enfin, donc c'est des prêtres. Je sais pas si c'est des calvinistes ou c'est...
Je crois, oui.
Mais en tout cas c'est la croyance, enfin on va dire l'église danoise, où ils ont des petites collerettes blanches notamment, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et donc le père et le fils le sont, l'autre fils a fait le séminaire mais il n'a pas continué. Donc c'est censé se poser des questions sur la foi et la religion. Et alors moi j'ai envie de dire, pour moi le sous-titre de cette série c'est... Donc alors, qui est très bien faite, très bien jouée. Voilà. Donc, ne vole pas ma chute s'il te plaît. J'étais en train de dire, mais qui est quand même très bien jouée, assez bien écrite dans le sens où l'histoire que ça essaie de raconter, disons que c'est bien... C'est des vraies scènes, c'est des vrais dialogues, c'est des vrais personnages. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a un savoir-faire d'écriture évident.
Oui, non,
c'est juste que pour moi, ça n'a mais aucun intérêt. Parce que, à part que les fils sont très jolis à regarder, même le père, à part que c'est un peu un connard, franchement, même le père, je le pousse pas du lit, quoi. Franchement, ils sont
faut
tous.
Pas checker ça aussi.
Faut pas checker ça aussi. Attends, je sors mon iPad. Je prends le téléphone, vas-y, tu peux chercher sur l'iPad. Attends, ça c'est. T'as vu, c'est. C'est
Ah non, je n'ai pas la référence.
Tu ne reconnais pas Princesse Leia de dos?
Ah merde.
Tu vois?
Ah oui, bah oui.
Rebels Come avec le truc de l'Alliance. Si vous voulez la photo, demandez-la moi sur Twitter. Je l'adore. Alors, du coup, tu cherches ici et tu cherches notre ami.
Lars Mikkelsen.
On est en train d'enregistrer Dom. Je sais que tu rêves de participer à ce podcast sans avoir à vraiment.
Je tiens à dire que je suis pas d'accord.
Tu tiens à dire que t'es pas d'accord?
Coup de gueule.
Coup de gueule.
Vas-y, assieds-toi. Viens nous faire ton coup de gueule. Mais en fait, je suis en train de faire mon coup de gueule. Moi, je suis en train de dire que j'aime pas Ride Upon the Storm. Du coup, je te demande ce que toi t'en as pensé. Et donc, oui, donc pour moi, c'est
T'as été happé dans ce podcast.
Pour moi, c'est Religion for Dummies parce que je trouve que c'est d'une naïveté incroyable, les problématiques de foi qui sont mises en scène. Et je crois pas qu'une famille qui soit.
Oui, c'est passée... bien le frère, si jamais.
D'accord, donc Lars Mikkelsen. Donc, pour moi. Si t'as vécu toute ta vie là-dedans, tu te poses pas les questions de cette façon-là, en fait. Pour moi, c'est
mais
des questions.
Question
le côté de perdre la foi aussi rapidement.
Mais qui perd la foi?
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux pas raconter le truc pour les gens qui vont le voir. Mais je trouve que malgré tout, en réalité, il y a plein de moments depuis le début du truc où tu te dis, ça tient pas la route que ce soit vécu comme un tel drame ce que t'es en train de faire là. À part effectivement le drame du mec qui devient pas évêque et encore t'es là, ouais. Donc en gros. Enfin, du coup,
le drame du mec qui devient pas évêque, c'est quand même qu'il déçoit sa famille par rapport à ce qu'il suit.
Non, mais oui, il déçoit pas sa famille, il se déçoit lui-même.
Oui.
C'est juste un mec qui a de l'ambition et qui est pas content de pas avoir ce qu'il a voulu obtenir. C'était Alix qui disait hier. Ouais, donc en gros, le mec, il a toujours tout eu ce qu'il voulait dans sa vie, et puis d'un coup, on lui refuse un truc et bah, le père.
Ah oui, non, j'étais en train de voir le jeune.
Oui, mais le jeune, et pareil, le jeune,
le
il
jeune...
est branlé de façon hyper étrange.
Non, là, le jeune, je te parle de celui qui. Le brun. C'est le...
Ah oui, bah oui, non, mais lui, il a pas d'histoire, c'est plus simple.
Mais si j'ai bien compris, il a fait des études pour être évêque, et puis après, il a
arrêté. Non, pas pour être évêque. Évêque, c'est. Enfin,
pour
être,
non, pasteur,
pour être prêtre.
Ouais.
Évêque, c'est.
Ah oui, arrive, oui,
c'est,
oui,
c'est dans
sommet,
la hiérarchie. Oui. Donc tu vois, je comprends, mais je veux jamais, non, ça t'a pas déplu. Parce que tu sais. Pardon. Non mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était très creux,
mais
qu'est-ce qui avait l'air dramatique comme questionnement, c'était pas des vrais questionnements. C'était des questionnements de quelqu'un qui avait écrit la série sans vraiment s'être intéressé à la religion avant, et du coup c'était très naïf.
Après je sais pas dans quelle mesure ça peut être pertinent, mais moi l'impression que j'avais déjà eu sur Borgen, c'est que...
Que j'ai jamais vu, donc j'en sais rien.
Mais je vais pas spoiler, mais en tout cas...
Non mais du coup...
Mais dans l'approche, c'était hyper pédagogique quand même. C'était...
Il y a une différence entre la pédagogie vis-à-vis
ouais,
du spectateur.
Mais non, mais voilà.
Et
mais
montrer que quelqu'un.
Je sentais qu'ils expliquaient beaucoup de choses, ils étaient dans
mais
le.
Mais là, ils n'expliquent pas. C'est juste que les personnages traversent des moments émotionnels qui me semblent pas crédibles si leur background est celui qu'il est.
Hmm. Mais je suis pas encore certain qu'il ait, perdu la foi. Ou
bah non, il a pas encore perdu la foi, mais c'est encore pire que ça, parce que quelque part, ça serait. Mais c'est comme s'il rajoute. Mais même les autres soldats, qui après qu'il y a eu un truc avec la Jeep, reviennent. Enfin, je sais pas, il y a. Peut-être que je me trompe, hein, mais, mais sur les deux épisodes, moi, ça m'a désintéressé à cause de ça.
Ou l'an prochain.
Moi, ça m'a désintéressé. Bon, et toi, du coup, on va demander à Dom ce qu'il en a pensé. Et toi, Dom, Ride Upon the Storm?
Voilà. J'avale mon jus de pomme. Le truc, c'est qu'il y a. Enfin, je suis très mitigé sur la série. En effet, pas mal de moments que j'ai trouvé assez naïfs, d'autres un peu gratuits. Moi, je trouve. Je pense qu'il s'est posé des questions sur la religion, mais de manière un peu superficielle, je pense. Ce qui est un. Je trouve qu'il va pas assez loin dans un aspect ou dans un autre. Je trouve ça rigolo, les petites touches mystiques que tu vois parsemées, et en même temps c'est d'une gratuité affolante quoi. C'est du formalisme pour du formalisme, et ça a tendance à me dérouter un petit peu quand à côté c'est pas carré quoi. C'est pas je trouve qu'il y a globalement un personnage relativement intéressant. C'est celui qui part en pas Afghanistan.
En pas Afghanistan, oui, parce qu'on sait pas le pays du coup.
C'est ça. C'est quoi les pays de Tintin déjà?
Je sais pas.
C'est quoi le pays dans.
Moi je connais le Qatar. Non, le Qatar c'est un vrai pays, putain. Kumar.
Le Kumar, bon là, quand il
fait. Quand il part. Tout un pays. J'espère que personne nous écoute au Qatar. Je m'excuse. Je m'excuse. Et si vous voulez m'inviter pour me montrer votre beau pays,
pour financer le podcast.
Aussi. Je suis hyper intéressée.
Par contre, au Kumar, vous pouvez tous crever parce que vous êtes vraiment des enfoirés.
Et surtout, j'en ai pensé, j'ai un ami qui habite au Qatar. Bon, passons. Peut-être que je pourrais aller le voir lui.
Bon. Personne ne connaît quelqu'un qui habite à Kumar. Oui. Donc, il part en guerre au Kumar. Et ce qui lui arrive, c'est toujours très naïf, mais ça arrive à être touchant parce que l'acteur, je le trouve touchant pour le coup.
Et il est très beau aussi. Moi, franchement, pardon.
Ça aide aussi.
Oui. J'ai du mal à me concentrer sur cette partie du truc.
Je n'ai pas eu ce problème.
Non, mais j'aurais juste voulu qu'il se tape le soldat musulman à la fin.
Alors, redis ce que j'ai dit hier. Donc, vous vouliez vraiment que ce type qui laisse sa femme derrière lui, ça soit en fait parce qu'il aime bien les militaires. Non, mais sérieusement, vous voulez pas. Mais c'est hyper cliché, sans déconner.
Alors, parce que c'est là. Mais oui, mais c'est un cliché qui n'est pas assez exploré. Ouais. Attends, c'est bon, le nombre de clichés, genre. Tu vois, le père.
Ça soit exploré, oui, mais pas dans ce cliché-là, quoi. Merde.
Oh, bah non, mais je suis désolée, le père. Oh non, c'est trop dur, j'ai pas eu le job que je voulais, c'est une nana qui l'a eu, je la déteste. Excuse-moi, c'est pas cliché, ça.
Non, je trouve qu'ils sont pas allés loin.
Les
gars
militaires, on les voit pas assez souvent là, dans les séries. L'autre, on le voit tout le temps.
Je pense qu'avec l'autre frère, ils sont pas allés assez loin.
T'as pas cru qu'ils allaient se taper, qu'ils allaient s'emballer sur le. Merci.
C'est des militaires. Justement, il y a une tension quoi qu'il arrive.
Mais là, il y a un truc en plus quoi. Tu sens, t'as la façon dont il n'ose pas le toucher pour oui, prendre dans ses bras et tout est là. Comment?
Mais non, mais c'est le protestanisme qui ose pas enlacer le.
C'était le musulman qui n'osait pas enlacer l'autre. Moi, je sais pas, je les sens.
La réaction du père par rapport à le résultat de l'élection et puis son rapport ensuite avec la. Du coup, ce qui est intéressant, une femme évêque.
Ah bah c'est de la misogynie pure et simple.
Bon, après à voir comment ils vont le traiter, mais bon, c'est.
Ça m'a pas l'air hyper subtil. Je crois qu'ils pensent littéralement que c'est une
c'est le diable. Diable ouais.
Donc oui.
Bah, là, ça, sa limite, c'est rigolo.
Mais d'ailleurs, ouais, j'ai sursauté. Quand elle a fait
la finalité de la série, parce qu'elle ne s'est pas montrée hyper drôle.
Bah attends, quand il a deux doigts de rouler un palo à Jésus sur la croix, déjà tu te dis.
Mais... On est en train de vendre cette série d'une façon.
Tu l'as pas encore vu picoler, mais tu te dis, il y a un truc, quoi. Tu prends quelque chose, quoi. C'est obligé, quoi.
Donc là, les gens qui n'ont pas vu cette série, sont là.
Qu'est-ce que c'est que ce machin? Non, mais par contre, j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin avec le frangin. Qui finit jamais ce qu'il a commencé et que et donc il commence à chauffer la meuf de son meilleur petit. Non, je finis jamais ce que j'ai commencé.
Et moi, en même temps, ça aurait été pas mal de sa part, enfin, ça aurait pas, c'est assez logique de sa part de la chauffer jusqu'à ce qu'elle veuille et qu'il dise ah, maintenant finalement, c'est une mauvaise idée, je peux pas faire ça à mon pote.
Mais c'est pareil, ça c'est hyper cliché, tu le vois dès la première séquence quoi.
Mais à la limite, ça me dérange pas que ce
hyper...
soit.
Ouais, mais c'est hyper attendu. Enfin, ça.
C'est trop attendu, si tu racontes un truc, c'est pas grave. Le problème, c'est que ça raconte rien. C'est que c'est hyper attendu, mais il n'y a pas de conséquences.
Ça raconte des choses. Ça raconte des choses par moment. Moi, le bender de.
Le bender.
Quand il part en bender, quand il part en beuverie,
le père quand il disparaît, quand il picole par deux
jours. C'est ridicule. Et tu sais qu'il va revenir au dernier moment, et tu sais qu'il va faire l'enterrement complètement pété. C'est peut-être un peu ça que je reproche à la série, en plus de sa naïveté générale, c'est que ça se...
Naïveté narrative, en plus du reste.
Il y a une naïveté narrative, quoi. C'est genre, t'as vu ce qu'ils font, c'est transgressif. Non, tu t'y attends depuis la première scène, quoi.
Ouais.
Et c'est presque ça que je reproche plus.
Les
parce
hommes
que
limite, faibles qui sont faibles, moi j'en ai
voilà,
encore à la casquette.
C'est, voilà, il a perdu, il boude, il va picoler dans un bar.
Il trompe sa meuf.
Il trompe sa meuf. Alors, première scène, bon, allez, avant d'aller me murger la gueule, parce qu'après je suis plus qu'à trop sûr d'être capable de le faire, je vais aller me taper quelqu'un d'autre, et puis après je vais me murger la gueule. Ok.
C'est vrai qu'il n'y a pas trop de rôle féminin intéressant aussi dedans.
Non.
Bah, elles sont vaguement intéressantes, mais en complète background, quoi. Elles sont pas.
Ça tient sur les comédiennes qui sont top, parce que celle qui joue la femme, c'est celle qui jouait dans The Killing, la version danoise, me semble-t-il.
C'est
celle qui joue la mère. Ouais. Celle qui joue la mère de la. De celle qui. De Lisbeth.
Sophia.
Elisabeth Elisabeth.
D'accord. Et il me semble bien, on pourra me détromper plus tard, mais il me semble bien que c'est elle. Il y a moyen de checker, je pense.
Je vais checker. Non, parce que on a décidé qu'on ne pas checker en live pendant ce podcast. Donc déjà, Jean-Marc Vallée est bien québécois, je suis bien contente de
l'avoir.
Mais non, mais j'ai eu un doute. J'ai fait tout un truc sur les cinéastes québécois, jusqu'à ce que je me dise ou pas.
C'est quoi ton internet?
Alors, non, c'est pas internet, c'est IMDB. Tu vas dans IMDB. Ça sert bien de fact-checker si on fait le...
Et donc il y a fact-checking en direct.
Et du coup, moi j'ai adoré la femme du fils.
C'est mieux que pendant les débats politiques.
La femme du fils.
Oui.
La brune.
Oui.
La petite brune.
Sophia Grabol.
Sophia Grabol.
Et donc, est-ce que c'est... Non, mais il a regardé The Killing. Donc, est-ce qu'on est sûr que c'est bien la nana de My Depend the Storm?
Oui, mais j'ai vu que la première saison où elle était dedans en tant que la mère de la victime. Et elle est...
Ah, c'est la mère de la victime, c'est pas la flic.
Non, c'est pas...
D'accord,
ah
ok.
Ça, t'as regardé la flic là?
Bah en fait, il regarde The Killing, mais ça, ça l'autre part. On s'en fout. T'as vu un. Donc voilà, moi je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur. T'étais à la Dame Price à la rencontre avec lui?
Du coup, moi j'y étais.
Et alors?
Moi j'ai beaucoup aimé. Il est très accessible, il a des choses pas mal intéressantes à dire sur la façon dont il. Il jongle les différents aspects de sa vie, et puis surtout son parcours, comment il est devenu vraiment artiste. C'est. Voilà, entre sa famille qui baigne là-dedans depuis, il nous expliquait, je crois, plusieurs siècles même. Donc c'est assez impressionnant, c'est vraiment, il est inscrit là-dedans, même s'il a eu l'opportunité d'avoir une carrière dans le judiciaire. Je crois qu'il a fait des études de droit, mais après, finalement, il a décidé de passer à l'écriture et d'essayer d'avoir une carrière à la télé, ensuite il a réussi à avoir dans, je crois que c'était pour la satire politique à la télé danoise, et puis petit à petit il a gravi les échelons, il a eu sa propre série, il est même devenu directeur pour la programmation des dramas à je sais plus à quelle chaîne à la télé danoise, et après il est redevenu créateur de série parce que ça lui manquait d'écrire.
Mais quelqu'un m'a dit cette rencontre qu'il n'y avait pas eu beaucoup de conversations sur le process, que c'était que de la conversation sur le parcours, et qu'il n'y a pas eu beaucoup sur l'écriture et c'est quoi d'écrire et comment on écrit, quoi.
C'est vrai.
Je trouve ça un peu dommage.
Orienté,
du coup, je regarde pas spécialement.
Mais Damon Lindelof non plus, quelque part.
Ouais, mais je trouve que Damon Lindelof, ça trans.
Le truc, c'est que ça vient naturellement avec lui, c'est que tu sens qu'il a vraiment envie d'en parler du. De la façon dont il aborde son écriture et, donc, mais c'est vrai que c'est un peu souvent ce qui se passe au niveau des entretiens, je trouve.
C'est les parcours,
ici c'est les parcours, c'est les bios, et c'est quand on découvre, c'est super. Quelqu'un qui connaît superficiellement Lindelof, qui ne connaît pas du tout le travail du créateur de Ride Upon the Storm, c'est intéressant de s'attacher au parcours parce que ça permet de revisiter. Mais c'est vrai que quand tu t'intéresses à l'écriture avant tout, ça semble assez. Chouette, on a passé en revue la bio. Ça aurait été mieux de savoir comment il bosse et puis savoir comment ça bosse au Danemark.
Ouais.
et même si on sait un peu plus déjà comment ça se passe aux États-Unis, mais pour ceux qui ont cette petite frustration d'une masterclass qui était globalement très très bonne avec, avec Lindhoff, on en a déjà parlé, mais il a été invité au Nordic Writers Panel.
On en a parlé dans le deuxième podcast que tu as pas eu le temps d'écouter, voilà. du jour 2 de Saïmania, où j'ai précisé, écoutez voilà. Ça, écoutez aussi le super conseil de Dom qui est How Did This Get Made, Superman 3, oh, l'épisode. Putain,
qu'est-ce que c'est drôle, bordel.
L'épisode d'Evan Lindelof. Mais en plus, oui, il me semble qu'il en a fait au moins deux des Nordic Writers Panel, mais le
oui,
premier... Mais le premier, c'est celui où il parle du fait qu'il espérait désespérément qu'ils n'achètent pas Lost.
Ouais, ouais.
En disant...
Cette série, c'est tellement un accident.
Non, en fait, c'est génial parce qu'il dit... oui, il voulait qu'on fasse ça et ça, ce qui était impossible à faire. Je continue à penser d'ailleurs que c'était impossible à faire. Et je comprenais
je pas
pourquoi il voulait que je fasse.
Non, et puis moi, ça me fait toujours rire vis-à-vis de Lindelof, la façon dont on encaisse son boulot et la façon dont on traite Lost. D'un point de vue narratif, il y a énormément de choses à redire et ça, j'admets totalement. Mais par exemple, quand on s'attaque aux documents préparatoires qu'ils avaient envoyés à la chaîne, c'est complètement stupide, quoi. Si on s'attaque à ça, c'est qu'on comprend absolument pas le process d'écriture.
Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit ?
Voilà.
Dire,
vous vous rendez compte, ils savaient pas où ils allaient à cette époque-là. Oui, à l'époque, ils ont fait le document préparatoire sur une commande. Mais bien sûr qu'ils savaient pas où ils allaient. Heureusement.
Mais surtout, oui, c'est ça. C'est le pire chose dans l'os, c'est la fin. Devine ce qu'ils ont écrit en premier ? La fin. Donc arrêtez de vous plaindre tout le temps. C'est... Parce que le truc que vous avez en main, c'était le truc qui était prévu. Donc arrêtez de faire chier le monde.
Alors après, il y a certains créateurs de séries, mais ils se comptent sur les doigts d'une main, qui sont capables de se dire, moi j'ai un plan sur 5 ans, il va se passer ça, ça et ça.
Mais
genre Straczynski.
Oui, Straczynski,
c'est l'exception.
Et encore, je suis sûre qu'il a laissé quand même beaucoup d'espace
créateur
dans Babylon 5.
De Carnivalet aussi, qui avait un plan très défini.
Bah, quelque part, Kripke, il avait un plan sur 5 saisons sur Supernatural. Oui, mais il a fait son plan sur 5 saisons.
Il a fait son plan, il s'est barré après.
Et en même temps, mais je pense qu'il y avait clairement beaucoup d'espace. Il a laissé énormément d'espace aux autres auteurs aussi pour insuffler énormément de choses dans Supernatural. C'est ça qui a fait que Supernatural ne fonctionne pas à cause de ça. C'est parce qu'il y a tout le reste au milieu. J'adore.
Ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut. Enfin, ce qui est pour moi la chose qui est très intéressante sur un créateur, c'est quand il sait à peu près comment ça va se terminer. Genre quand Gilligan décrit l'arc de son personnage principal en disant on va partir de là, on va arriver là. Mais par contre, il n'avait aucune idée de comment ça allait se passer
en
et
même temps,
jusqu'à
pour moi,
où il allait.
Buffy, c'est génial parce qu'il n'avait aucune idée de où il allait. Quoi.
Bien sûr.
Mais en même temps, il se posait tout le temps la question. Et oui, il essayait de réfléchir d'année en année. Et il avait des idées, ça, ce serait bien un moment de traiter de ça. Tu vois, il a...
Là, The Leftovers, je ne sais pas si Lindelof avait déjà imaginé.
Je pense que
déjà imaginé la fin qu'il voulait donner. En plus, la série est tellement sur.
Je pense qu'il a commencé au début de la saison 3, il savait comment il voulait terminer sa série. Quoi.
Ouais, voilà. Vu qu'il ne savait pas s'il allait à chaque fois avoir une nouvelle saison.
Je pense que pour le coup, la 3, il a dit je voudrais que ce soit la dernière.
Ouais. À moins d'être vraiment dans le contrôle, ce qui doit être énormément le cas de Straczynski, par exemple, le processus créatif, c'est aussi être surpris par quelque chose. Justement,
c'est le mec qui a fait Babylon 5.
Et qui fait
Sunset.
C'est la scène qui a été commandée.
Nerds font tomber leur téléphone. Nerds.
Et qui a écrit Sense8, en tout cas la saison 1, dans son intégralité.
Avec les
Wachowski. C'est un type hyper intéressant et fascinant, mais c'est donc un cas d'école.
Et Babylon 5, c'est complètement hallucinant.
Et par exemple, Lost, tout le monde dit que Michael Emerson est génial dans Lost. Emerson, à la base, il devait arriver pour 6 épisodes et se barrer.
Comme Spike.
Mais voilà, et donc il a été. Je veux dire, c'est aussi. Il faut lui reconnaître aussi quand il a fait des bons choix. Quand Lindelof dit non, mais on le garde et on en fait l'antagoniste principal. C'est un coup de génie, tu peux pas tout prévoir.
Ce qui va être intégré.
Mais par contre, tu peux effectivement toi-même réagir face à ce que tu vois et bien réagir.
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu cherches ?
Je crois que Juliana va arriver.
D'accord. Tout va bien. Oui, donc on fait c'est ce podcast, c'est la partie pré-Juliana. Il va y avoir une petite partie post-Juliana.
Et après, je serai mort.
Une post-Juliana où on parlera de comment c'était Juliana.
Je vais te laisser parce que je vais aller voir Click.
Ah, tu vas voir Click. Eh ben moi j'ai même publié un truc où j'ai écrit sur Click parce que j'ai publié un article où sur 3 séries de Sériemania. Genre les gars, c'est pas arrivé depuis très longtemps que je publie un truc. Je crois que c'est la première fois que ça arrive que j'ai publié un truc pendant le festival.
Je propose de faire une hola sur le canapé.
Wow. Et dans les dedans je parle de Bellezanas, de Click et de The Swell.
J'ai pas vu The Swell.
Beau teasing,
ouais. Et ça s'appelle Tour du monde, 3 petits points, politique. Parce que politique est le mot d'ordre. Enjoy Click, merci Dom. Alors du coup, un autre truc dont tu voulais parler, une autre série que tu as vue.
Coup de cœur ou coup de gueule.
Intéressant. Non, pas coup de gueule.
Non, moi, je veux pas dire de la merde. Moi, je veux que du positif.
Non, mais si, dis du mal de quelque chose, si je suis d'accord.
Alors, les séries françaises, c'est une catastrophe. C'est... non, moi, j'exagère, je suis dans l'emphase, mais globalement, je suis quasiment déçu par tout ce que j'ai vu.
Et mais t'es pas surpris. C'est ça le problème. C'est ça le pire.
Dans certaines, j'avais pas d'attente.
C'est ça que c'est mal. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est déçu. T'as vu la saison 2 de 10%?
Oui, par contre, j'étais vachement satisfait, même s'il y a des intrigues où il y a des trucs à redire. Mais dans les dialogues, dans l'interprétation, dans le rythme, dans la cohérence de la saison, ça c'est une réussite. Mais voilà, là, elle s'est déjà imposée en saison 1, donc là, je suis pas surpris d'avoir continué.
Non, mais c'est quand même cool, t'as pas été déçu, une bonne série française.
Mais les nouvelles séries françaises, globalement.
T'as vu quoi?
Donc j'ai vu On va s'aimer un peu beaucoup.
J'ai pas vu.
Léa
a pas du tout aimé.
Ah, que j'ai vu d'autres. Mission et La Forêt. Je crois que c'est tout. Enfin, j'avais vu Zone Blanche avant de venir, mais ça compte pas trop. Mais même Zone Blanche, j'avais pas spécialement aimé.
Et pourquoi? Alors, pour toi, quel est le problème? Parce que moi, j'ai une théorie.
Ça change, c'est dans les séries, mais.
Y a pas un. Moi, je vois les mêmes symptômes en même temps. C'est différent, mais je vois les mêmes symptômes. Pendant longtemps, le symptôme numéro 1, c'était un problème de savoir-faire.
Mais il y a un côté, voilà, ça va peut-être rejoindre ça, mais c'est le côté ampoulé dans l'écriture où ça fait très forcé. Tu vois la série se faire en fait. Tu t'es jamais complètement dedans. T'es encore, mais ça fait un peu projet d'études, mission. C'est vraiment ça qui m'a sauté aux yeux. Enfin, tu sens que ça fait très scolaire. Et puis c'est pas forcément des bons acteurs, j'ai trouvé quand même.
Probablement très mal dirigés, je suppose. Voilà, je suppose qu'ils sont mal dirigés.
Après, il y a des bonnes idées quand même dans Mission. Je dirais que c'est la moins pire. Mais
Oui, mais en même temps, les bonnes idées, il y en a à l'appel des bonnes idées. Voilà. Moi, c'est ça. Moi, je sens. Donc, pendant longtemps, j'ai senti un problème de savoir-faire dans la production. C'était qu'une partie du problème, mais il y avait un problème. Donc, des dialogues.
Oui, les dialogues très mal.
Qui sonnent pas juste.
Non, voilà.
Du coup, qui sont liés à des personnages qui ont des enjeux qui sonnent pas juste.
C'est dommage que Tom soit parti parce qu'il m'avait fait réaliser un truc à une autre édition de Série Mania par rapport à l'écriture française, que maintenant j'arrive plus à m'en dégager quand je regarde une série française, c'est que justement ces dialogues sont assez mal écrits parce qu'il y a un problème par rapport à la réflexion autour du langage et de la façon dont c'est dit en télé française, c'est que les gens parlent pas comme dans la vraie vie. C'est très. On a besoin de dire toutes les négations. On a besoin de dire vraiment.
De là. Les pronoms. Si, c'est... Mais alors attention parce que il paraît. Moi j'ai eu une conversation une fois avec quelqu'un de prod qui me disait. Oui mais il y a des tournages. Alors dit c'est une convention dans les scripts d'écrire en français correct. Sinon ça ralentit la lecture. Et c'est une convention sur certains tournages de ne pas changer le texte.
Et les conventions, c'est fait pour être
donc
changé.
Je ne sais pas si t'es une ado de 13 ans et que ta mère dit tu rentres à quelle heure, elle fait je ne sais pas. T'as un problème. Et le nombre de séries qui font ça. C'est ça, c'est le podcast. On a fait, aujourd'hui on fait l'enregistrement en live. Nous avons un spectateur. Mais il a l'air hyper enthousiaste. Donc merci beaucoup. Voilà, la salle en délire, merci beaucoup. Et donc voilà, donc ça c'est un souci. Donc ça c'est souci 1. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, sur ce domaine-là, donc c'est-à-dire aussi qualité de production, qualité de réalisation, qualité de jeu, de tout le savoir-faire de l'exécution, y compris mais moins l'écriture de dialogue spécifique, commence à s'améliorer. Dans le sens où il y a une professionnalisation. Sauf que l'autre
problème.
Symptôme, qui est le manque de substance, bah quoi, bah c'est juste une histoire. C'est quoi le sujet de ton truc? Eh ben c'est l'histoire d'une nana qui fait machin. C'est pas ça un sujet. Tu as The Good Wife. C'est quoi l'histoire de The Good Wife? Oui, il y a une histoire, mais c'est quoi le sujet de The Good Wife? Le vrai sujet de la série, pas du pitch. C'est quoi l'histoire de The Good Wife?
C'est l'éducation d'Alicia Florrick.
Non, l'histoire de The Good Wife, c'est les relations entre
La vie privée, la vie publique.
Entre le monde juridique des affaires et la loi. Le truc de base.
Bizarrement.
Non, mais le truc de base de The Good Wife, ce qui nourrit la plupart des trames de tous les épisodes, c'est le rapport à la loi. C'est à quel point la loi change, notamment liée au business, et notamment liée au boom d'Internet, et notamment liée à tout un tas de trucs.
Je sais plus si ça arrivait plus tard.
Ça arrive dès la saison 1. Dès la saison 1, t'as la question de la politique, et de la loi, et de la justice en termes de politique, que ce soit au niveau de la politique vis-à-vis des Afro-Américains, que ce soit au niveau... Cette idée de... Parce qu'aux États-Unis, la loi est intrinsèquement liée à la politique. La politique est liée à la loi. Enfin, les deux vont ensemble. Et le fait, quelque part, d'avoir Floric, le mec, en personnage, qui est d'abord en prison, puis après en politique, automatiquement, ça souligne ce lien-là, qui est là de toute façon. Donc ça, c'est le sujet. Et quelque part, les Kings... Bien sûr qu'ils étaient fascinés par l'histoire d'Alicia, mais en même temps, il y avait clairement, qu'ils s'en rendent compte ou pas, il y avait clairement, à un moment, assez rapidement, cette idée de... Mais en fait, on a envie de parler de comment la loi fonctionne. Est-ce que la loi a une justice ? Est-ce que quand on est avocat d'affaires, on se bat pour la justice ? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu veux gagner plein d'argent ? Enfin, tu vois, clairement, ça, dès le départ, c'est là.
Ce qui n'est pas le cas dans les séries françaises.
Dans les séries françaises, c'est juste on se réfléchit. Mais parce qu'on ne se pose pas la question du tout. Et d'ailleurs, quand les Français parlent des séries américaines qu'ils aiment, tu te rends compte qu'ils ont un mal fou à dépasser la surface. Et du coup, ils ne voient pas ce truc-là. Ils réalisent pas ce truc. Ils disent « Ah, c'est cool parce que machin, il est méchant. » Ou « C'est cool parce qu'il y a un twist. » Ou « C'est cool parce qu'il y a des mystères. » Et tu vois, et du coup, et ben, moi, j'ai vu 3 séries françaises hier et j'étais en colère toute la journée. Parce que il y en avait 2, c'était la sci-fi, c'était Mission et Transfert. Et alors déjà, la nécessité pendant la présentation de l'équipe de Transfert de nous dire « Alors, c'est pas de la science-fiction, hein, parce que c'est de l'anticipation. » Et t'es là. En quoi l'anticipation c'est pas... Non, mais sur le coup, en quoi l'anticipation, c'est pas une forme de science-fiction ? Puis, non, parce que nous, on voulait vraiment parler de thématique de société. C'est ce que fait la science-fiction, les gars. C'est assez rigolo, parce que c'est ce que le russe avec Belazonas avait dit, sauf que lui, j'ai adoré, donc je vais pardonner. J'ai pas aimé, donc j'avais pas pardonné. Mais.
En toute bonne foi.
Ben non, mais oui, en toute bonne foi, parce que je le dis officiellement sur le podcast. Et non, il y a vraiment un truc sur. Enfin, Transfert, pour le coup. Il y a une naïveté, une grossièreté dans, donc pas vulgarité, mais une grossièreté dans la façon dont les thématiques sociopolitiques sont menées. Et si tu choisis un sujet comme ça, tu te poses une question, tu lis un bouquin sur le totalitarisme,
tu lis un bouquin sur
la haine raciale, tu as les leftovers dans les consultants, dans le numéro 1, il y a Reza Aslan, Reza Aslan, c'est un théologien.
C'est de la religion.
C'est un théologien qui a écrit des bouquins sur l'islam et sur qui est musulman lui-même, mais qui a écrit un super bouquin sur Jésus de Nazareth.
Mais oui, la substance.
Je suis désolée, tu l'inventes pas.
C'est pour ça que je pense que 10% s'en sort vraiment bien, c'est parce qu'il y a le backup.
Et en même temps, moi, ils ont fait un truc dans le pilote que j'aurais toujours pas pardonné.
Vas-y, c'était quoi ?
Tarantino.
Ah, je me souviens plus.
Bah, la trame du pilote, c'est. Ah, merci.
Déjà un fan.
Non, mais déjà. Il savait qui j'étais. Il a dit à samedi, il savait qui j'étais. Mon Dieu, c'est terrible. On a eu donc un spectateur live. Oui, donc. Donc il y a quelqu'un qui était assis et qui vient de se lever et qui est parti juste pour les gens qui ont toujours pas compris ce qui se passait. Ça m'a perturbée. 10%, oui, dans le pilote de 10%, c'est pas une blague, c'est toute la trame du pilote. C'est que elle veut le rôle de Tarantino et Tarantino dit elle est trop vieille. Bon, déjà.
Est-ce qu'il serait pas capable de faire ça ?
Bah non, pas avec une nana avec qui il est en pourparler depuis 6 mois. Enfin, tu vois, donc ça paraît illogique. Et ensuite, on lui menace de pas avoir une autorisation de tournage. Du coup, il dit ok, on la prend, mais il faut qu'elle se passe sous le bistouri. Franchement ? Vous aviez pas un autre réalisateur à choisir ?
Je pense qu'ils sont partis dans une perspective où c'est grand public.
Mais on sent... Attends, Steven Spielberg ? Excuse-moi, tu prends Ridley Scott ? Excuse-moi, Tarantino, grand public ? C'est même pas grand public. Michael Bay, ce que tu veux, quoi. Ça, c'est... Je suis désolée, une série avec le backup comme ça, une série qui est censée me parler d'un métier... En plus, moi, le mauvais truc, c'est que moi, j'ai grandi dans ce métier-là. Ma mère est comédienne, donc j'ai pas... Du coup, je suis particulièrement... Tu vois, j'ai grandi avec des... Moi, j'avais un agent depuis l'âge que j'avais 8... Enfin, depuis mes 8 ans, tu vois. Bon, après, j'en ai plus, mais pendant... Enfin, tu vois, c'est parce que je faisais plus rien, mais j'ai fait mon premier film quand j'avais 10 ans. Et du coup, je connais ce milieu-là. Et je suis juste... Et pour moi, c'est juste là. C'était pas compliqué, quoi. Ça, c'était juste, en fait, les gens... Et donc, eux, je pense c'était le pilote, c'était le rush, ils ont pas le truc. Ok. Mais c'est... Disons que c'est une autre marque de ce symptôme, et je le pardonne à 10% parce qu'ils font d'autres trucs bien dedans, mais quelque part, c'est le symptôme général qui est on s'en fout un peu de ce genre de choses. On, oh, c'est pas grave, ça ira très bien. Quand tu penses que dans The West Wing, la costumière, elle a abandonné l'idée d'acheter des vêtements pour ses personnages parce qu'elle a rendu compte que le look n'existait pas dans les magasins et que l'intégralité des fringues portées par les personnages de West Wing sont faits main, taillées sur mesure. Je suis désolée. Il se pose la question.
La veste française n'a pas encore.
Mais pourquoi?
D'historique, de passif.
Mais oui, mais c'est. Mais non.
Ces réflexes-là.
Mais non. Non, non. Tu sais ce que. Mais non.
J'espère que ça.
Mais non. Tant qu'il n'y a pas l'ambition, tant qu'il n'y a pas la vision. Oui, c'est important le détail. Oui, on aime notre art. Oui, on veut faire bien les choses. Tant qu'il n'y a pas ça. Et après, quelque part, une fois plus, oui, ça veut dire bien entendu qu'il faut que les auteurs aient des moyens et l'espace, notamment. Justement, Dom a fait une interview avec Fanny Herrero qui était hyper intéressante, où à un moment de trucs, elle parlait à un moment, c'était la problématique de ne pas avoir de lieu de travail. Mm. Tu vois que dans la prod, et en tant qu'auteur, t'as pas de lieu de travail, t'as pas d'endroit avec du café, des trucs à manger, des trucs pour réfléchir et tout. Donc je suis d'accord qu'ils sont pas aidés, mais. Mais ce que je veux dire, c'est que. En fait, je dis pas que c'est de leur faute, que c'est eux qui sont mauvais. Je pense que c'est juste qu'il y a, encore un problème, en tout cas dans la machine, pour que personne, avant que ça arrive à Sérimania, ne tire la sonnette d'alarme pour dire.
Attendez.
Là, vos personnages qui sont hyper violents avec les transférés, donc dans le cas de transfert, en fait, mais c'est censé être quoi? C'est de la haine raciale? C'est de la haine de classe? Et pourquoi ils sont aussi violents? Et pourquoi ils parlent du fait de pouvoir les tuer? Il y a un truc avec. Enfin, c'est bizarre quand même. C'est hyper. Enfin, tu vois, pourquoi tant de haine aussi spontanée? Tu vois, le racisme, la haine religieuse, ça a des bases historiques assez profondes généralement. C'est lié à un truc d'identité. Donc là, est-ce qu'il y a un truc d'identité? Est-ce que là. Puis c'est rigolo parce qu'on a discuté avec Lady Teruki et Alix, on a parlé de la série. Et on a juste en 3 minutes, on a dit non, et puis ça aurait pu parler de ça. Et on a fait.
Ah ouais, donc
3 minutes, peut-être pas, mais 3 minutes de brainstorming d'idées. Nous a donné des
mais
pistes
pourquoi
plus
y a pas
intrigantes.
De la consultation de sériphiles, tant qu'à faire, tu vois, ou de gens.
Mais de la consultation tout court.
Mais oui.
Mais
sur
après,
ce,
hein.
Je vais juste partir voir Juliana.
C'est déjà, il est temps d'aller Juliana, mais c'est dans
non,
une heure.
Je vais mettre dans la queue une heure.
C'est dans une heure.
Je m'en fous. Je suis prévoyant. En Suisse, on se prévoit.
Tu es suisse?
Oui.
Bon. Alors du coup, tu veux dire que là, on va faire pause.
Exactement.
Et que la prochaine partie sera pause Juliana.
Tout à fait.
Ok, merci
Sam. Je
sais
pas dans quel état
je serai. C'est pas grave. On prendra juste tu pourras crier, tu vas faire. Bon bah va dans la queue. J'ai tellement pas. Alors mais ça n'intéresse tellement pas d'entendre la queue. On vient de voir Juliana.
Alors je sais pas quoi te dire, sinon que c'était l'éclate absolue, elle était encore mieux que dans toutes
tes rêves les plus fous.
Non mais j'ai déjà rencontré.
C'est vrai?
Après, bah oui.
À quelle occasion?
J'étais de passage sur New York et puis j'étais en train de tourner la saison 7 et puis c'était dans la rue et puis je me suis dit bah je vais rester dans le coin pour voir ce qui se passe.
Tu avais trouvé sur internet où est-ce qu'il tournait ou t'étais tourné?
Alors j'avais des alertes, je sais pas si c'est connu, mais de On Location, Vocation.
Oui c'est
je
pour ça.
C'est connu. Voilà, et puis j'avais vu, oh bah ils sont dans le coin, bah je vais faire un tour par là, ah il y a The Good Wife qui tourne.
Et ouais, moi j'ai mon pote David, il a stocké Gossip Girl pendant tout son séjour New York.
Mais là voilà, c'était vraiment pas loin de là où j'étais à ce moment-là à New York, j'ai vu le truc, je vais faire un détour par là, et effectivement ils étaient vraiment en train de tourner. Et du coup, je suis tombé. J'ai cru la voir de loin pendant sur le set. J'ai cru que c'était elle. J'ai reconnu aux cheveux, mais elle était toujours de dos. Puis à un moment, elle est sortie, elle rejoignait son trailer. Puis après, je me suis dit, il faut que je m'assure. Puis après, Juliana, elle s'est retournée, j'étais sûr que c'était elle. Après, j'ai attendu hors du trailer. Puis je demandais à l'assistante, je croyais que je peux lui parler. Et elle m'a dit, bah, faut voir quand elle sort. Puis du coup, j'ai attendu. Et quand elle est sortie, elle m'a dit, enfin, je lui ai demandé tout tremblant, est-ce qu'on peut faire un selfie, machin. Elle me dit, ouais, sure, mais quickly, machin, parce qu'elle, vu qu'elle bossait. Puis voilà, c'est à ce moment-là que j'étais déjà vraiment tombé complètement amoureux d'elle, déjà même si je l'admirais avant, mais j'étais complètement dingue d'avoir une actrice aussi importante et qu'elle soit aussi gentille. Puis là, de la revoir, franchement, c'est. Ou pouvoir l'écouter aussi longtemps, et parler aussi en autant de détails de son travail, de son parcours, c'était fabuleux. C'est. Et elle est très naturelle à propos de tout ça, je trouvais que c'est. Voilà, je suis encore en train de digérer toutes les informations, ouais. Les questions qu'elle a répondues, mais
moi je les trouve super, je les trouve
c'est très préparé,
super,
mais
Très préparé. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu...
Je pense qu'il y a... Enfin, elle connaissait les questions avant.
Oui, mais en même temps, enfin, tu vois... moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, d'expérience pour avoir organisé ces trucs-là, tu fais les meilleurs panels quand tu te prépares. Prendre quelqu'un par surprise pour lui parler de trucs dont il se souvient plus depuis 15 ans, c'est le meilleur moyen d'avoir... t'as envie qu'ils réfléchissent à leurs réponses, t'as envie qu'ils réfléchissent à ce dont ils ont envie de parler, ce qu'ils ont envie de transmettre. Tu vois, sinon, c'est rigolo parce que j'ai souvent eu ce genre de truc, moi, ou quand non, moi, des conventions, pas, dans des événements qui... Non, mais je suis bien pris, mais je... For argument's sake, ou des événements où ils voulaient faire des surprises aux acteurs sur scène et tout, et il n'y a rien de pire, quoi, surtout un acteur américain. Et l'acteur américain, il a même préparé. J'avais justement un acteur avec qui j'ai fait un truc à Comic-Con il y a quelques années qui me disait: si tu veux que j'ai l'air surpris, dis-moi que je puisse jouer la surprise. Parce que sinon, en fait, surtout vu que c'est des professions qui sont très, où tu es tout le temps déstabilisé, ils ont tendance à avoir par défaut pas de réaction.
Ouais.
Parce qu'ils sont très... En fait, ils sont très préparés à ne pas montrer. Donc, si tu leur demandes pas ce que tu veux d'eux... Ah, tu vois, quand t'es acteur, ta profession, c'est de te contrôler tout le temps, quoi.
C'est clair.
Donc, si tu veux faire un événement comme ça et que ça fonctionne, faut lui donner des pistes, faut lui parler de quoi...
C'est préparé dans le sens où c'était très propre.
Oui.
Et moi, ça me va très bien, mais tu sentais, tu regardes une interview de Late Show. Moi, il y a des moments où elle est... Je sais pas si c'était à jouer, mais où tu sentais vraiment qu'elle réfléchissait à des questions, ou un peu vraiment de traite. Je la sentais vraiment naturelle, comme je l'ai dit.
Oui. C'est pour ça que je pose la question. Non, mais c'est de la façon dont tu as dit oui, c'est vrai que c'était préparé. C'est comme si c'était un défaut.
Non,
voilà. Oui, c'était comme si c'était un regret ou un défaut ou une excuse où tu excusais le truc. Et moi, je suis là. Enfin, moi, je. Non, moi, je pense que c'était. C'est glou parce que je sais pas, il y a commencé à avoir des rumeurs, comme toujours dès qu'il y a une actrice, ah mais est-ce qu'elle est sympa, mais on sait pas, machin et tout. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point juste une femme qui veut se protéger parce que son métier est compliqué et les gens ont tendance à croire qu'ils peuvent avoir accès à elle et à faire des photos et machin juste parce que c'est une actrice. Et tout de suite, on parle dans le côté, ah, elle est pas sympa, enfin tu vois, tout le monde soupçonne tout d'un coup ce genre de truc. Moi, je trouve que ce qui est le plus ressorti de cette masterclass, c'est à quel point elle a l'air d'être quelqu'un qui fait très attention aux autres et qui réfléchit à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait aussi par égard pour les autres.
Non, comme elle disait, la leçon qu'elle a retenue de George Clooney par rapport à son expérience, oui, prendre en considération vraiment déjà tout le plateau, les gens qui y travaillent, parce que c'est pour eux que tu joues en premier au final quand tu fais de la télé.
Et puis surtout, oui, parce qu'eux, ils bossent deux fois plus et ils sont payés deux fois moins, voire cinq fois moins.
Mais je trouvais vraiment bien de sa part de mettre ça en lumière et d'avoir cette...
Mais souvent, les gens qui ont des carrières comme ça, qui font... La raison pour laquelle aussi, tu vois, enfin, George, il a eu la carrière qu'il a eue, au-delà du fait qu'il est beau et tout, machin, c'est aussi parce que, en gros, il est...
Ça marche.
On a Elodie qui nous fait des signes comme quoi il faut aller picoler après. Où on va picoler où après, juste pour savoir.
Ça roule.
D'accord. Ok. Non, parce que de toute façon, je coupe pas le podcast. Donc, il y a un gros blanc et les gens comprennent pas. Donc là, on essaie de comprendre les signes de Elodie. Merci, Elodie. Et du coup, moi, je sais pas ce que je fais après. Je crois que j'étais censée retrouver d'autres gens. Bon, passons. Et du coup...
En tout cas, tu boiras un moment.
Ouais, mais je suis peut-être allée poser mon sac dans l'appart où je squatte en ce moment pour cette nuit. Le podcast qui passionne tout le monde. Il y a Elga, raconte sa vie. Et donc, non, je trouvais qu'on sentait ça. Oui, que je pense que les gens qui perdurent, en fait, ils sont aussi sympas. Avec les prods, c'est avec les gens
sympa.
En général. Non, mais dans le sens... T'as envie de travailler avec eux parce que c'est des gens avec qui c'est agréable de partager du temps parce que voilà, il y a une considération, il y a du respect, il y a de l'empathie, tu réfléchis à des trucs, enfin ils se mettent à ta place de temps en temps et du coup automatiquement ça en fait des gens avec qui c'est agréable de travailler et du coup c'est des gens à qui tu penses quand t'as un projet, un machin et tout. Et après c'est compliqué parce que les nanas ont plus facilement
des réputations ensuite,
voilà.
Qui sont déformées
mais c'est souvent parce que suffit qu'une nana veuille et des désirs spécifiques, que ce soit une réalisatrice, que ce soit une actrice, que ce soit une prod, que ce soit ce que tu veux, pour que s'il y a une personne à qui ça ne plaise pas et qui dise « Ah, mais elle est pas sympa », et ben après, ça suffit pour faire une réputation. Et ça, c'est vrai en série, c'est vrai dans tous les métiers. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand elle parle
dans le cas des médias et des séries, c'est encore plus déformé vu qu'il y a vraiment une loupe grossissante.
Non, mais tu vois, Hillary Clinton, c'est ça qui s'est passé aussi.
Oui,
c'est que le fait de détester Hillary Clinton était devenu une évidence et plus personne n'avait. En fait, it was a narrative. C'était devenu l'histoire. C'était personne n'aimait Hillary Clinton. Ce qui n'était pas vrai 2 ans plus tôt. Et tout d'un coup, c'était moi, mais de toute façon, personne ne l'aimait. Mais d'ailleurs, la façon dont elle en a parlé, le fait qu'elle ait prononcé son nom plusieurs fois, qu'elle n'ait pas prononcé le nom spécialement de Trump, mais le fait qu'elle ait prononcé le nom d'Hillary Clinton plusieurs fois, la façon dont elle l'a prononcé, tu sens que pour elle, c'est une évidence qu'elle aime bien Hillary
Clinton. Ça l'a affiché son soutien, ça c'est clair, oui.
Mais ouais, moi aussi, j'étais pour Hillary.
Beaucoup de gens.
Techniquement, je suis aussi. Non, il y a tous ceux qui sont, moi j'aimais bien Sanders, parce que voilà, oui, c'est vrai, mais. J'aime bien qu'ils sont pour Sanders, mais je trouve que c'était aussi une facilité, quoi. C'était une facilité parce qu'il avait l'air de... Il ressemblait à un bisounours, grand-père bisounours qui disait des trucs sympas. Et du coup, les gens, c'était plus cool d'être pro-Sanders alors qu'Hillary Clinton...
C'était la disruption politique, entre guillemets, ouais, si ça. J'ose me permettre le terme.
Non, mais disruption, après, c'est le nom préféré, le mot préféré de tout le monde. Ouais. Mais tout ça pour dire que Juliana avait l'air tout à fait charmante et assez intéressante. Et ça donne envie...
d'en savoir plus sur elle demain.
Ouais, j'aurais eu envie de parler plus de...
T'as essayé de poser une question, toi?
Non.
Non, tu voulais pas.
Non, je suis en train de tricoter, tranquille. j'aurais voulu qu'il y ait plus une question autour de la... c'est vrai.
Madame tricote pendant les conférences.
Toujours. Depuis 2 ans, déjà. Et j'aurais voulu... En savoir plus sur le process. Mais pour ça, il aurait fallu continuer à parler. Non, mais tu vois, du coup, comment tu organises le travail avec un nouvel acteur? Qu'est-ce qui est excitant? Comment, justement, ok, ils me donnent des signaux sur ce qu'ils vont faire avec le personnage, ok, à quel moment... En fait, on a un truc qui s'appelle Série Mania. On pourrait rentrer
un peu plus approfondie sur l'acting, je trouvais. Il y a eu des très bonnes questions, en fait, Pierre Langlais, je trouvais, justement, sur sa relation à la caméra, la différence avec le théâtre. Bien sûr, on aurait pu approfondir encore plus.
En fait, ça me donne envie d'en voir un deuxième, un troisième, tu vois ce que je veux dire, parce que je comprends très bien qu'entre la taille de sa carrière plus... la spécificité des questions, tu peux pas tout couvrir. C'est vrai que du coup là, soyons clairs, les kings, et elle l'a dit elle-même, elle l'a fait entendre. Tu vois, quand elle a gagné aux Emmy Awards il y a 3 ans, parce que ça, tu vois, ça c'est un truc qu'on est facilement impressionné par ça. Les dialogues sont bien écrits, ok, d'accord, mais le boulot des kings, il est monumental. Et du coup, aux Emmy Awards, mais justement, parce qu'il y a une direction, tu vois, il y a un leadership, il y a une... Enfin, tu vois, c'est une machine.
Couple qui écrit ça en tandem.
Aux Emmy Awards, il y a 3-4 ans, je sais plus quand elle a gagné...
Son deuxième ou son premier
Pour The Good Wife, donc je sais pas...
Non, parce qu'elle a gagné deux fois pour The Good Wife, pour la saison 2 et pour la saison 5.
Non, peut-être que c'est pour la saison 5. Elle a gagné pour la saison 5, elle a dit... on fait ça et on fait 22 épisodes par an. Contrairement à tous les autres, nous on fait ça 22 épisodes par an. En gros, pour dire, toutes les autres séries que vous récompensez, c'est des Prestige TV qui n'ont que 12 épisodes.
Ils sont privilégiés.
Je sais pas si c'est. Enfin, privilégié, c'est une façon de voir les choses aussi.
Oui.
Je trouve que c'est limité parce que quelque part, moi je trouve. Moi, les séries de 22 épisodes, c'est un autre privilège quelque part. Tu peux raconter d'autres trucs. Bon,
en termes de liberté de temps.
Absolument, effectivement, ils sont privilégiés, dans le sens ils ont plus de temps pour faire un truc qui est plus léché. Et du coup, vous reconnaissez plus facilement un truc comme ça. Bon, tout est-il qu'elle a dit ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ce que font les Kings, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils ont fait avec Braindead, ce qu'ils font avec The Good Fight.
J'aurais beaucoup aimé lui parler de Braindead, là, par exemple, vu que là, il lui a demandé sur The Good Fight.
Mais surtout par rapport à la réalité politique, tu vois.
Qu'elle ait pu s'exprimer sur ça,
Mais du coup, ça te donne envie de savoir comment ils travaillent. Les Kings, t'as vraiment envie de savoir un peu plus.
Du coup, là, on a envie d'une masterclass des Kings.
Ah, c'est clair,
Sarah Mania
qui
aurait dû inviter les Kings.
Ils auraient pas dû. Qui devraient.
Prochainement, inviter les Kings.
Tous les autres gens qui font des festivals devraient inviter les Kings. C'est complètement hallucinant. Moi, j'ai dans mon article, tu l'as lu, j'ai dit on leur reprocherait pas d'abandonner l'écriture pour ouvrir une école et apprendre à tout le monde à faire de la télévision comme eux. C'est genre, je leur pardonne s'ils prennent leur retraite, si c'est pour ouvrir une école, c'est bon, je leur pardonne.
Sont tellement mignons, je trouve. C'est des gens qui sont vraiment accessibles.
Moi, j'ai jamais vraiment lu de trucs et tout.
Ils sont très marrants, c'est papa et maman.
Ouais, c'est une vraie partnership, quoi. Je suis d'accord avec elle, par contre, sur Jason.
Oui, pareil aussi.
Moi, j'avais un peu occulté plein de trucs du final, donc moi, j'étais là, ah bon, ils sont ensemble à la fin. Dans ma tête, ils sont ensemble.
Ouais, j'aurais beaucoup voulu
demander
où est-ce qu'elle pense.
Il n'y a pas vraiment de rupture claire, en fait.
Non, il n'y a pas vraiment de rupture claire. En fait, c'est vraiment une fin hyper ouverte. On va spoiler, mais...
La fin de The Good Wife est hyper ouverte. Gros spoiler.
Voilà, mais... C'est à toi d'imaginer.
Oui, bah voilà, bah moi j'imagine qu'ils ont ce problème. Voilà, c'est tout. Ok, bah on va s'arrêter là. Merci Sam pour tous les trucs que
rien,
tu m'as raconté aujourd'hui.
Grand plaisir.
Ça va être, je pense que c'est un podcast un peu.
Brouillon, excité.
Pas tous mes podcasts sont comme ça, mais pour le coup un peu plus chaotique que d'habitude. Et demain j'essaierai de faire mieux. Allez, merci Sam, à toutes. Bonne soirée d'ici là. C'est ça que je dis, je crois, à la fin des podcasts.
Tu dis pas, n'oubliez pas que la télé, ce n'est que de la télé.
C'est qui ça?
Ça touche pas à mon poste.
Mais ça va pas faire
non,
des
voilà,
références comme
ça.
Ça, c'est le blooper. Merci. Allez. Après, c'est ça qui est rigolo. C'était la blague avec cet article, c'était de s'amuser à faire. Bah déjà, c'est très personnel et en même temps, il y a le côté c'est de cacher plein de trucs que dont j'avais envie de parler dans un top 10. Quoi. Parce qu'à la fin,
en fait, je parle de toutes les séries.
En fait, il y en a 30. Je pense qu'il y en a 30 au final. Tu vois.